bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Kadoumoudadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Bassureau sera là tout à l'heure. Et nos invités donc, Audrey Fleurot et Didier Bourdon.
Oh, oui.
Qu'est-ce qu'il y a, On entend tout ce que tu dis.
Je sais pas bien.
Tout ce que tu viens de dire, on vient de l'entendre. Vous êtes au théâtre et on a eu la chance d'aller vous applaudir avec Leïla au théâtre du Gymnase. Gymnase Maribel, d'ailleurs. C'est vrai qu'on dit toujours au théâtre Gymnase, on oublie la pauvre Maribel. Avec cette pièce Jo. Alors, on a en tête le film, sûrement. Je sais pas, vous avez en tête le film ou pas, avec Louis de Funès, avec. Oui, un peu. Ouais. Rendormez-vous alors.
Mais bienvenue surtout.
Je savais pas que c'était une pièce de théâtre avant d'être le film avec Louis de Funès.
Oui, c'était une pièce de théâtre d'abord américaine, je crois.
Américaine, ok. Le film est adapté. Hein. Déjà, le film.
D'Alec Coppel, lui-même est une adaptation de la pièce américaine. Ouais. D'accord.
Et en France, ça avait été joué. D'abord, De Funès devait la jouer, puis il l'a pas joué. C'est Robert Lamoureux qui l'a joué. Et après, De Funès l'a fait au cinéma.
Très bien. Alors vous, c'est avec donc Dominique Pinon et vous deux, entre autres. Il y a également Jérôme Anger, Guillaume Briat, Didier Brice, Clotilde Danillo, Grégory Kidel, Bernadette Lesache et Jenny-Anne Walker. Voilà, ce beau monde cité parce que c'est une véritable troupe, c'est un spectacle avec un décor sublime aussi, un rythme effréné. Et puis on se marre. On va raconter l'histoire dans deux petites secondes, mais d'abord, des questions concernant nos invités. On va commencer évidemment par Audrey. Comment se fait-il qu'Audrey Fleurot, enfant, se retrouvait très souvent dans les coulisses de la Comédie Française?
Parce que sa maman était pompier.
Audrey Fleurot était pompier.
J'ai le mot pompier.
Ouais, papa était pompier.
Papa était pompier. Non, mais le truc qui est très drôle, c'est que ça a dû arriver deux fois en tout et pour tout.
Et quand vous le ressort, c'est pas comme si.
Et oui, mais Maggie, pour lui, deux fois souvent. Hein,
Non, mais ça a été fondamental. Donc faites attention à ce que vous faites avec vos enfants, parce qu'en fait, il suffit d'une fois pour avoir une vocation. Donc voilà. Non, je pense qu'il y a eu un soir où ma mère a dû lui dire « Emmène la gamine ». Et donc, il m'a emmené. Et ça a été une révélation. J'ai 8 ans et je sais exactement ce que je veux faire.
La révélation était de voir des gens réagir, rire à ce qui se passe sur scène. C'est l'odeur, parce que quand même, le théâtre.
Non, c'était un Goldeni, c'était pas non plus à mourir de rien.
C'est drôle,
Goldeni. Oui, non, ce qui était particulier, c'est que le pompier de service.
C'est drôle comme Molière-Goldeni, c'est un peu la même famille.
Oui, non, mais c'était plutôt drôle, mais c'était pas non plus un vaudeville, pas un fait d'eau, mais ce qui est super, c'est que il y avait un strapontin pour le pompier de service qui est en fait entre la salle et la scène, et du coup, je voyais à la fois le spectacle du côté de la salle, et à la fois, je voyais les changements de décor, je voyais les acteurs se changer rapidement, enfin, je voyais toute la machinerie, donc j'avais un peu tout le.
Et là, le déclic. Je veux faire ça.
Ouais.
Vous l'avez dit le soir même à papa et à maman, ou ça a juste mûri dans votre tête?
Je me souviens pas l'avoir formulé, mais en tout cas, pour moi, je m'en souviens très clairement. Ouais.
Didier Bourdon peut en avoir à gauche, mais jamais à droite.
Je parle de l'argent?
Non.
Portable, des clés.
Bonne vanne.
Ouais, portable, des clés?
Non.
Des gens qui lui parlent? Des sourds d'une oreille?
Non.
Des bulletins de vote?
Non.
Il peut en avoir à gauche.
Il peut en avoir à gauche, mais pas à droite.
Il en a à gauche, mais pas à droite.
Des montres, des bijoux? Non. Des montres?
Oui, exactement.
Est-ce que toi-même, tu sais la réponse?
Oui, des bijoux, des bagues.
Je comprenais pas la question. Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait, oui. À gauche, mais pas à droite, oui.
Pourquoi?
Quand je serre la main, j'ai toujours peur. Tu sais, j'ai travaillé avec Lederman, donc voilà.
C'est fait. Quel sport, parfait. Quel sport, Audrey Fleurot, a-t-elle commencé à 35 ans, c'est la semaine dernière?
Surf.
Non. Oui, pardon. Genre, j'ai dit non, karaté, ah oui, bon. Au surf.
Surf,
hein? Surf, ouais. Surf,
non, mais alors moi, ce que j'adore, à la fois, j'ai pas envie de casser le mythe, mais je veux dire que j'ai fait en tout et pour tout un stage d'une semaine de surf, c'est-à-dire que j'ai dû vaguement prendre une vaguelette.
Vaguement une vaguelette, c'est joli.
Et le truc est devenu maintenant, à 35 ans, je démarre le surf. Moi, j'ai envie de laisser cette
rumeur.
Et donc, maintenant, je suis hyper balèze.
Non, mais la démarche, par contre, même si ça n'a duré qu'une semaine. La démarche de se dire, à 35 ans, je vais me mettre en faisant un stage de quelque chose, ça dénote quand même d'une volonté de...
Ah bah moi j'adore, puis c'est aussi pour ça que je fais ce métier, moi j'adore quand il faut apprendre à faire quelque chose pour un rôle et que vous allez pendant 2 mois vous mettre à fond à apprendre un truc que vous auriez jamais eu l'occasion de faire. Le truc avec le surf qui est très humiliant, c'est que vous avez des gamins de 4 ans à côté qui s'en sortent vachement mieux. Mais bon.
Audrey Fleurot a fait quand même 15 ans de danse, hein. C'est quand même une sportive déjà.
Ce qui doit aider à l'équilibre.
Ah oui. Et puis, c'est physique, hein, le surf.
Et la danse, on la voit sur scène.
Oui,
tout à fait. On la voit sur scène danser, on en reparlera tout à l'heure. Pourquoi Didier Bourdon pouvait-il partir en permission 15 jours avant les autres pendant son service militaire? 15 jours avant les autres, il pouvait partir.
Parce que c'est pas. Sa
date de naissance?
Non. C'est quoi, pardon?
Sa date de naissance?
Quel rapport?
Je sais pas, j'essaye un truc.
Oui, mais ça marche pas. Ton truc ne marche pas.
Il avait un engagement, il était déjà dans une troupe. Hein,
il faisait des.
Vous savez ce que c'est le service militaire? Non, ce que les jeunes ne savent pas.
Alors,
le service militaire, c'était un truc assez utile pour les autres. Non, bah, faut le.
Non, c'est pas loin.
Il y avait un engagement, il y avait
troupe, une compagnie,
un stage,
un spectacle, une émission.
Ouais, mais alors, c'est Marina, il avait déjà un engagement parce que c'est ça. Ça se jouait à la caserne, en fait.
C'est ça. Et en fait, comme le spectacle, c'est la fête de la caserne, c'était 2 jours après notre sortie officielle. J'avais déjà un peu négocié en disant, bon, d'accord, on reviendra 2 jours après, ce qui était quand même incroyable. Et en revanche, on aura 15 jours de vacances. Mais enfin, il a fallu batailler. Hein, parce que j'avais une équipe, une troupe, et il y avait l'adjudant-chef d'un bataillon qui voulait pas, qui disait, moi, les artistes, j'aime pas. Bon, cela dit, à l'armée, c'est quand même là où j'ai eu le plus beau compliment de ma vie.
C'est-à-dire?
C'était un adjudant-chef qui avait des grosses moustaches, vraiment une caricature. Et on a fait le spectacle, et à la fin, il m'a dit, non, ton spectacle, il était bien, j'ai pas touché une canette du spectacle. Je
suis sûr, c'est vrai. C'était quoi, le spectacle?
Et ben, c'était un spectacle de sketch, et d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'il y avait un sketch que j'ai repris des années plus tard avec les Inconnus. Et c'était en 79, ça, donc. Et à l'époque, il y avait des copains à moi, et notamment un mec qui s'appelle Joël Ponce, que je salue, et qui travaille pour Groland, entre autres.
D'accord.
Qui fait la voix de Monsieur Marronnier.
Mais le compliment ultime, j'ai pas touché une canette, pour te dire, si je me suis marré.
Dessous, mais il me l'a dit sérieusement, il me dit, j'ai pas touché une canette, hein, bravo.
Alors, Audrey Fleurot et Manuel, elle a même fait un stage, alors ça a duré que 2 jours.
Hein. Elle c'est
le mythe.
De la céramique.
Moi, je suis tout en mythe.
Alors, c'est pas de la céramique, non.
Ébéniste.
C'est pas de la céramique.
Tricot, tissage.
Mais en tout cas, on est dans un...
Poterie.
Dans le moulage.
Ébénisterie.
Alors, sculpture.
Gravure sur...
Marqueterie.
Peinture.
On n'est pas dans... C'est pas vraiment de l'art, avec tout le respect que je dois quand même à ce métier. Alors, pas loin.
La peinture.
Non. La restauration de meubles de...
Non.
De la maçonnerie.
Exactement.
Attendez, restauration de patrimoine, je sais faire des voûtes.
Ah bah alors.
Maçonnerie, comme vous y allez. Je sais faire des voûtes, moi.
J'aurais voulu s'occuper de moi, d'ailleurs.
Je répète ce que Stéphane Bern m'a expliqué. Donc il m'a dit, elle était maçonneuse. Non mais blague à part.
Maçonneuse batteuse.
Il parle comme ça,
c'était
Berne.
Un été. En fait, on était censé faire de l'archéologie sur un site et on s'est retrouvé en fait à reconstruire le site et notamment à. C'était un château d'ailleurs et à refaire des.
C'est pour ça que Stéphane est au courant, c'est pour ça.
Oui, c'était le sien.
Est-ce que donc vous.
Je me suis bien emmerdé.
Ça, c'est l'effet Stéphane, des fois.
Donc, si un jour le rocher de la Vierge est en péril, tu.
Je peux intervenir.
À quelle occasion Didier Bourdon a-t-il assisté à une messe célébrée par Monseigneur Lustiger?
Un enterrement?
Non.
Un mariage.
Ah, c'est pas exactement ça, c'est pas Monseigneur Lustiger?
Si, mais.
Ah, d'accord.
C'est en lien avec son père?
Oui.
Diacre, qui était diacre, donc.
Ouais.
Joli.
Mais j'ai assisté
à d'autres.
Non, j'ai pas pu assister longtemps parce que j'ai pas pu être. Je suis arrivé en retard. Non, pas arrivé en retard, c'est que j'avais un.
Ouais.
Bah, tiens, ma mère, si elle m'écoute, elle me dira. Tiens.
Donc votre papa a été ordonné diacre en 94 par Monseigneur.
Exactement, à Notre-Dame de Paris.
Ça doit être, c'est... Alors, diacre, c'est dans le domaine civil, hein. Faut nous expliquer un
oui,
tout petit
peu. Oui, mais il peut marier les gens. Et, bon, mon père n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais.
Il pouvait délivrer des sacrements.
Oh, exactement. Ouais.
Et dans quel état, dans quelle émotion vous étiez, vous, d'assister à cette célébration?
C'est quelque chose bizarre, de particulier, c'est un peu comme mon père, quand je le voyais au bureau, c'était plus la même personne. Dans la vie, c'était plutôt quelqu'un d'assez joyeux, enfin un peu sévère par moment. Mais au bureau, moi, ça m'a marqué, même dans mon métier d'acteur, c'est pas le même. Bonjour, je vous en prie. Et puis il me faisait une bise, assieds-toi là. Oui, donc, la réunion, machin.
Il avait deux voix, la voix au naturel et la voix au travail.
Il avait son costume, alors en diacre, dans son truc blanc avec Lustiger et tout. Putain, lâche, là, tu disais merde. Peut-être que c'est pas mon papa.
Bien, depuis ce 19 septembre, à peine quelques jours, vous êtes tous les deux sur... Je vous en prie, Audrey. Joli bruitage.
Joli bruitage. J'arrive pas à moucher sans faire de
bruit. Oui, bah ça, on a vraiment
aimé ça. Ça t'a ému tellement, mon histoire.
Au théâtre donc du Gymnase à Paris pour Joel, cette pièce d'Alec Coppel adaptée par Claude Magnier, avec vous Didier et vous Audrey, mais également donc Dominique Pinon, dans une mise en scène de Benjamin Guillard. La pièce est inspirée c'est la pièce qui avait inspiré le film de Jean Giraud dans les années 70 avec De Funès, Bernard Blier, oui, et Claude Jansac, évidemment madame hein, dès qu'il y avait De Funès, il y avait madame
une carrière de madame
De Funès,
hein,
pour elle au moins ça lui garantissait de l'emploi, hein. Elle était sûre d'avoir du boulot. L'histoire d'un auteur comique à succès qui est en mal de création et qui cherche à écrire.
Adopter un changement, à prendre un virage dans sa carrière.
C'est ce qu'il dit, soi-disant, parce qu'il est victime d'un maître chanteur.
Voilà, en fait, il est victime d'un maître chanteur. C'est vrai que la pièce était quand même assez osée dans les années 70, parce que d'ailleurs, je crois que c'est la seule pièce et le seul film où De Funès tue quelqu'un. Par mégarde, hein, bien évidemment, on va pas tout dévoiler, mais voilà, donc il veut se débarrasser de ce type-là par amour pour sa femme, et peut-être dans sa tête il se dit c'est horrible parce qu'il me fait un chantage incroyable, mais je dévoile pas le chantage, et en fait il est incapable de tuer une mouche, mais par mégarde il va se retrouver dans un cauchemar.
Quoi. Et vous êtes au cœur de ce chantage, Audrey Fleurot, puisque juste, il menace de dévoiler votre passé.
Oui, tout à fait. Alors, ils sont pas sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, parce que elle est assez fière de se passer, mais elle est assez inconséquente, donc elle se rend pas forcément compte des répercussions que ça peut avoir.
On va dire qu'elle est plus excentrique que lui, en tout cas, dans sa manière d'être.
Oui, et puis elle est excentrique, elle est assez auto-centrée, et elle est un tout petit peu perchée. Enfin,
excentrique et auto-centrée, c'est très, je suis un petit peu en dehors du cercle et un peu au milieu.
Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Mais c'est assez juste comme couple, un peu Pierre Fresnay et Yvonne Printemps. Vous voyez ce côté, ce qu'on nous raconte en tout cas. Et je pense que mon personnage a une fascination pour sa femme, c'est pour ça qu'il est prêt à commettre l'irréparable presque.
Ouais, tu es pour la réputation de sa femme.
Ah oui, c'est ça. Oui, d'ailleurs, il y a des scènes un peu qui passent bien maintenant, un peu grandiloquentes, où je lui dis si quelqu'un devait entraver notre bonheur, elle dit mais qu'est-ce qui se passe ? Non, mais bon. Alors, ce qui est drôle, c'est que le spectateur est au courant, bien sûr, de l'acte horrible que je suis prêt à faire, et puis elle n'imagine pas une seule seconde
qu'il écrit une pièce. Donc en fait, elle se rend pas compte tout ce qui se passe autour d'elle. Elle est persuadée que de toute façon c'est parce qu'il est en train d'écrire une pièce d'un nouveau genre, puisque policier, c'est la première fois qu'il fait ça, il va lui écrire le grand rôle de sa vie. Donc elle, il y a qu'une chose qui compte, c'est qu'il garde l'inspiration et qu'il lui écrive enfin ce grand rôle.
Et on est dans une pièce comique extrêmement rythmée. On parlait tout à l'heure d'ailleurs des fédos, c'est-à-dire que chaque phrase, chaque réplique est dans un tempo assez particulier.
On a un metteur en scène qui n'arrête pas de nous dire coller, coller, coller. C'est des personnages qui parlent avant de réfléchir, et c'est assez juste.
Coller, c'est-à-dire il faut coller à la réplique de l'autre. Ou ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'il
entend par coller ? Coller dans le tempo, on va dire, c'est coller ça. C'est tempo, sentir le truc, c'est-à-dire qu'on va réfléchir après souvent. Mais d'ailleurs, c'est écrit comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il se passe tellement... C'est un cauchemar, en fait. C'est une sorte de... Ça n'existe pas vraiment.
C'est un cauchemar à vivre, peut-être pour vous, pas pour nous à voir, en tout cas.
Oui, bien évidemment, mais c'est ça qui est sympa, c'est que, voilà, il y a plein de coups de théâtre au moment où ça va mieux pour mon personnage. Tac, il y a un truc qui l'écroule. Au moment où je m'en sors, ma femme, sans savoir, va me foutre un bâton dans les roues. Il y a le au troisième acte, à un moment donné, on se dit bon, ça y est, ça s'est fait. Il s'est débarrassé de ce type-là. Hop, il y a l'inspecteur de police qui arrive. Alors, il d'un seul coup.
Ah, vous êtes pas gâté en fait. Même début de la pièce, en fait, vous êtes environné de personnages qui sont tous.
L'inspecteur de police est en jeu par Dominique Pinon.
Hein. Quand arrive l'inspecteur Ducrot, c'est le début de la fin.
Il s'appelle Ducrot.
Oui.
Ah oui, d'accord. J'avais pas noté. Non, mais si. Mais non, ça me revient. Mais il y a un petit côté Columbo.
Ouais, voilà, c'est entre Columbo. Oui, Columbo, parce que. D'ailleurs, je joue là-dessus, moi. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'il dit, bon, bah, c'est fini, je me dis, qu'est-ce qu'il va encore me sortir? Et ça ne loupe pas, d'ailleurs.
J'oubliais.
C'est là où il y a un côté un peu cauchemar, c'est-à-dire, c'est... Et dans le bon sens aussi, c'est-à-dire...
Et il n'en sort jamais. Et chaque fois qu'il croit trouver la solution pour s'en sortir, il ne fait qu'aggraver, en fait, la situation dans laquelle il y a une espèce de descente aux enfers permanente. On parlait du rythme, d'ailleurs. Quand on joue sur scène, est-ce que on joue aussi avec le public? Ce que je veux dire par là, c'est-à-dire les éclats de rire du public doivent aussi rythmer vos répliques.
Bah évidemment. C'est-à-dire qu'on laisse un petit laps de temps raisonnable pour que le public puisse entendre.
Mais pas trop longtemps non plus.
Mais pas non plus.
Est-ce qu'il y a
plaisant.
Est-ce qu'il y a des soirs où il y a un bon public et des soirs où il y a un moins bon public?
On vient de démarrer, mais...
Oui, on a...
Là, non, mais je parle même dans vos carrières.
Bah,
non.
Bien sûr, mais...
Est-ce qu'on ressent ça? Des soirs où on se dit, le public a été bon ce soir.
Non, mais c'est-à-dire que vous sentez qu'il y a un public qui est immédiatement acquis et du coup, c'est une sorte d'émulation, de va-et-vient entre le public qui va rire un peu dès le début et du coup, nous, ça nous booste. Et puis, il y a un public qui va falloir aller chercher plus activement.
Oui, mais parfois, voilà, le public qui démarre trop fort, c'est pas toujours le mieux parce qu'il faut tenir la... C'est pas d'ailleurs qu'ils aiment moins après, c'est que s'ils démarrent trop fort, ils se fatiguent.
C'est une pièce courte, quoi. C'est une pièce
non,
d'une
non,
heure et
je parle
demie,
pas de
plus.
Cette pièce, je pense aux Inconnus, par exemple.
D'accord.
Les Inconnus, bon, cela dit, ça cartonnait bien, bien sûr, mais il y a des gens, à peine on arrive, oh bon, je dis, attends, je pense un truc beau, quoi.
On sait pas comment c'est.
Voilà.
Ouais, c'est l'appétit, ouais. Mais non, mais
après,
comme
pour la
cage
au sol, moi, je me souviens de fois où le public était un peu froid au début. Ouais. Et en fait, c'était des applaudissements. Parce qu'en fait, il faisait froid, et j'avais compris, ils avaient mis leur manteau sur, ils pouvaient pas vraiment applaudir au rigueur. Enfin,
ils applaudissaient sous le manteau, d'où l'expression.
Il y avait un peu de ça, exactement.
D'où l'expression. Et il y a, comment dirais-je, on va pas non plus tout dévoiler si vous avez la chance d'assister aux représentations de Joe, mais il y a un moment de lâcher prise totale de votre part, Audrey, où je me dis, ok, donc.
Elle a craqué.
Ouais,
on l'a perdu.
Et on n'a pas peur du ridicule parce qu'elle va se lâcher.
Oh bah non, non, évidemment. On aurait choisi un autre métier si on avait peur du ridicule. Hein, vraiment, c'est même assez cathartique, hein, le ridicule. Enfin, je veux dire. Moi, c'est aussi pour ça que j'ai accepté de jouer ce spectacle. C'est que j'avais jamais eu l'occasion
Vous avez autant fait la folle, ce que j'allais dire. Vous avez déjà fait la folle à ce point sur scène?
Oui, peut-être pas à ce point, différemment, mais en tout cas, là, j'ai un espace où je suis autorisée. D'habitude, je joue dans un théâtre où on me dit « Bon, on se calme un peu, on va peut-être un peu... » Et là, j'ai un peu carte blanche, donc c'est l'occasion. Après, évidemment...
Alors, c'est venu de vous, de Benjamin, les idées de mise en scène, où vous vous retrouvez et à danser, et à quatre pattes, et à faire la folle, et...
Après, dans le texte, elle a un peu
justement.
Des moments... c'est-à-dire que comme elle est... Il y a une mise en abîme, toujours, du théâtre dans le théâtre, avec l'auteur qui écrit la pièce. Elle, c'est une actrice de théâtre de boulevard qui désespérément avoir un grand rôle dramatique.
Son Pantin, ouais.
À l'américaine, ouais. Comme elle dit. Elle a une espèce de fantasme de jouer à l'américaine. Et du coup, elle est un peu constamment en train de se mettre en scène. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'opportunité, à l'intérieur même de la pièce, de jouer un personnage dans le.
Mais
un
le
sous-personnage,
pièce dans la pièce,
quoi.
C'est ça, ouais.
Donc c'est un peu rigolo.
C'est en tout cas, oui, c'est pas un peu rigolo. C'est rigolo. Ouais. Ça s'appelle Joe. C'est au théâtre du Gymnase. Avec nos invités. Et puis, mise en scène par Benjamin. Guillard, je ne l'ai pas précisé, c'est lui qui avait adapté Vous n'aurez pas ma haine, oui. Porté par Raphaël Persona et qui a été récompensé par le Molière du metteur, du meilleur seul en scène. C'est signé aussi Benjamin Guillard, comme quoi il est capable de faire des choses graves et mouvantes.
Vous aurez mon amour.
extrêmement drôle au théâtre du Gymnase. Vous n'aurez pas besoin de donner vos réponses parce qu'il a et les réponses et les questions. Voici Tom Villa.
Audrey Fleurot, Didier Bourdon, bienvenue dans la bande originale. Didier, vous...
La bande comment?
La bande originale.
Ah, c'est bien, oui.
Non, j'ai fourché?
Non, pas du tout. Franchement, c'est pas mon genre de souligner quand tu
fourches. Bienvenue dans l'émission. Didier, vous la connaissez, cette émission?
Oui, on m'a dit que c'était une explosion d'émotions.
Ah, c'est pas faux. Et qui vous a dit ça?
Stéphanie la Monaco.
Comme par hasard. Non. Audrey Fleurot, vous connaissez Nagui et Leïla?
Il est adolescent, elle est psychorigide.
Oui. Exactement, ça, c'est ça. Peut-être un petit peu tranché comme avis. Alors, Audrey Fleurot, quand même, jouer avec un des inconnus, ça doit faire quelque chose.
Des gens que vous admirez, puis vous les rencontrez, puis vous êtes déçus.
C'est très direct. Hein. Didier, vous le prenez pas trop mal.
On peut pas plaire à tout le monde.
Bon, quoi. C'est honnête. Et en vrai?
C'est vrai que ça peut faire du mal.
Et voilà, bravo Audrey. Voilà.
Les larmes me viennent.
Oui, bah c'est bon, on n'en fait pas trop, Nadia non plus.
Je suis fermé comme une huître.
Oui, si quelqu'un a un couteau et du citron. Audrey, pourquoi vous permettez ce genre de choses?
Je suis la présidente de la République.
Oui, bien sûr. Et la nuit, Nagui, c'est Batman.
Je crois que c'est MacGyver.
Ah. Il vous a montré son couteau suisse.
Non, donc, mais ça va.
Didier, parlez-nous un petit peu de votre rôle dans la pièce.
Je suis vraiment tout nu.
Ah, pas de texte, rien, d'accord, ok. Audrey, vous avez dit quoi quand vous avez vu rentrer Didier au théâtre dans le plus simple appareil?
Putain, c'est gonflé de le jouer comme ça.
Alors, je sais pas si c'est le mot adéquat, mais pourquoi pas. Audrey, ça vous ramène quoi comme public du coup?
Les exhibitionnistes de Butte-Chaumont.
Bon, bah, écoutez, c'est un public comme un autre, hein, du moment qu'ils payent leur place. Didier, vous souhaitez peut-être profiter de notre audience pour passer une petite annonce?
Je vends des objets coquins sur Internet.
Eh ben, tant qu'on peut rendre service. Et combien les gens dépensent en moyenne sur votre site?
100 patates!
Mais évidemment, bravo pour ce petit business florissant. Avant de vous laisser, une petite conclusion, Audrey.
Il y a beaucoup de putains dans ce que je dis et je m'en excuse.
Mais il n'y a pas de souci. Et oui, Didier.
J'ai tenté d'aller faire pipi, là.
Non, c'est trop tard. Bonne émission.
Merci, Tomina.
La bande originale. Midi sur France Inter.
Le travail de...
C'est, ça doit être du boulot de se fader toutes les interviews pour trouver des, toutes ces phrases quand même passionnantes.
Non, c'est vous qui avez donné les réponses, c'est pas moi.
Ouais, ce qui est intéressant, c'est d'observer aussi vos têtes en disant où, à quel moment
j'ai pu dire ça. C'est d'ailleurs sorti du contexte, à quel moment...
Il y a certains trucs, je sais, mais...
J'ai parlé des exhibitionnistes, des
Buttes-Chaumont. Ah ouais, ça m'intéresse.
Pourquoi ça t'intéresse?
Non, mais pas dire... Non, c'est pour les Buttes-Chaumont.
Quand vous êtes professionnel. Non,
ça a l'air documenté, quoi. Enfin,
je crois qu'il n'y en a plus des masses, à mon avis.
Au Buttes-Chaumont.
Je pense qu'Internet a calmé un peu, non.
On sent des regrets dans votre voix.
Non, parce que j'allais à l'école sur la 7 bis, là, vous voyez, la petite ligne Buttes-Chaumont, et j'en voyais beaucoup, et honnêtement, non, ça m'a un peu trop mal.
C'est le bon côté de la pornographie. Sur Internet.
Voilà.
Voilà, voyons le bon côté des choses.
Cet optimisme d'un qui...
Non, mais j'essaie de m'en sortir comme je peux. Dominique Pinon, je veux juste qu'on parle de Dominique Pinon, parce que j'adore cet acteur qui est avec vous sur scène.
Alors, on lui dira.
Ok, fin de cette phrase.
Mais non, pas du tout, pas du tout.
Non, mais comment se construit un casting une troupe comme ça sur scène? Vous allez vivre ensemble pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Vous saviez exactement qui allait jouer avec qui, quel rôle avant. C'est Benjamin qui vous a réunis. Comment ça s'est passé?
Non, c'est Benjamin qui nous a réunis. Non, ce qui est étonnant, c'est que je trouve que de mon expérience, en tout cas dans le process d'une comédie, ben finalement, c'est moins rigolo que de jouer un drame.
C'est vrai, pourquoi?
Parce qu'il y a un vrai stress de pas faire rire, et c'est une vraie pression
C'est une sensation nouvelle. C'est une sensation nouvelle pour vous d'être sur scène
pour
et de faire rire pendant une heure et demie.
Enfin, je veux dire, j'ai joué plein de spectacles où il y avait des moments drôles où effectivement on a envie de pas rater ces moments-là. Mais là, c'est l'objet même du projet, en fait, de divertir. Donc c'est vrai que c'est une vraie tension, parce que pour le coup, si le retour du public, il est immédiat sur de la comédie.
Et il est essentiel. Et dans ces cas-là, Didier Bourdon, lorsque justement on parlait de la réaction du public, de l'éclat de rire, vous savez exactement, presque mécaniquement, à quel moment arrivent les premiers éclats de rire, en tout cas les premiers effets. Est-ce que on est tenté d'être un peu cabot pour aller les chercher justement?
Non, en revanche, il faut se mettre dans un état de d'écoute des partenaires, du texte et aussi du public, et être vraiment dans le tempo. Par exemple, on voyait tout à l'heure Stéphanie de Monaco, ça, il fallait le sortir à la seconde près, enfin au quart de seconde. Si un peu trop tard, c'est moins drôle, un peu trop tôt, c'est pas bien. Et là, c'est pareil, dans cette pièce, il y a vraiment toujours des... C'est sûr qu'il faut coller, comme dit le metteur en scène, mais coller, voilà, il faut écouter aussi. Donc, ouais, c'est une tension permanente. C'est vrai que peut-être dans un spectacle.
Faut avoir l'oreille, c'est ça? Comment? Faut avoir l'oreille,
parce que l'oreille, énormément. Ouais. Un spectacle peut-être un peu plus tragique. D'ailleurs, j'en ai joué un peu, là, il y a un an et demi, où il y avait un peu les deux. On a un petit peu plus d'espace, on va dire. Encore qu'il faut quand même être là. Mais là, surtout dans ce genre de spectacle, quand on est surpris, quand on veut rattraper une connerie qu'on vient de dire, il faut vraiment être toujours dans un tempo.
Physiquement, Audrey Fleurot, c'est éprouvant? Physiquement, musculairement parlant.
Moi, je suis couverte de bleu là. Je suis couverte de bleu, mais vraiment.
Parce que Didier vous maltraite.
On a joué trois fois. Je suis couverte de bleu. Parce que sur le coup, on se rend pas compte et on est un peu à 200%. Et c'est super.
Surtout
physique.
Audrey, hein. Elle nous a fait des frayeurs en répétition.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y avait une table qui remplaçait. Là. Et puis elle s'est cassée la figure. Heureusement, elle s'est pas fait trop mal.
J'ai pété la table. J'ai proposé une prise de catch qui m'a été censurée à la dernière minute. J'ai été énormément censurée quand même.
C'est vrai. Vous vouliez aller plus loin encore dans votre personnage, parce que moi, je vous ai trouvé sans limite.
Non, je vous assure, j'en ai sous le coude encore. Hein.
Ça s'appelle Jo, elle en a encore sous le pied, donc comme elle dit, théâtre du gymnase en ce moment. Et alors, je ne sais pas jusqu'à quand vous avez prévu de... Est-ce que c'est limité
là,
dans le temps?
C'est une quarantaine de représentations, nous avons des obligations après. Mais après,
tu reprends toujours. Alors là, moi, je voudrais qu'on parle de cette voix.
Laquelle? Je ne sais pas laquelle c'est.
Celle-là. Celle aussi qui est reprise un peu dans le spectacle.
Qui fait un peu voix Arte sur l'art contemporain.
Contemporain, oui. C'est ça. Oui, c'est très... C'est un peu quotidien, quoi.
C'est quoi? C'est en hommage à votre papa et vous prenez deux voix, une voix pour parler.
Ah oui, ça sont des postures, bien évidemment. Là, on l'a fait pas mal avec les inconnus, le côté d'un seul coup, le mec. Il y a une voix que je fais moins bien que Bernard, c'est le journaliste de Libération. Oh, salut.
Vous la tenez quand même.
Un peu, mais bon, ça, j'adore quand Bernard.
Ça s'appelle Joe, c'est au théâtre du Gymnase avec Audrey Fleurot et Didier Bourdon qui sont nos invités. Et Dominique Pignon également présent sur scène. Je reparlerai de la distribution dans quelques instants, mais d'abord, voici Marina Rollman.
Ah, oui. Les amis, bonjour. Aujourd'hui, bonjour. Une chronique pour m'offusquer, car régulièrement dans les commentaires sous les vidéos inter, on me traite de sale bobo parisienne de merde. Et je m'insurge, car non, je ne suis pas parisienne, voilà.
Oui.
Sale bobo de merde, absolument. Pas parisienne. Et je le constate tous les jours, je ne suis pas faite pour vivre dans cette ville où tout le monde a l'air d'avoir un truc à faire. C'est la course à qui a l'air le plus débordé quand tu demandes à tes potes, mais ça va comment au boulot en ce moment? Ils ont même plus de mots. Ils font des bruits, on dirait des bulldogs français. Ils sont là, oh le boulot. Faut consulter si tu travailles tellement que tu n'as plus de conseils. Même les gens que tu connais pas te font comprendre qu'ils ont mieux à faire que toi. Dans la rue, les gens suggèrent que ta simple existence empiète sur leur emploi du temps. Si t'as le malheur de pas traverser assez vite au passage piéton, il y a des gens qui t'engueulent, des inconnus, et n'importe qui. Ils peuvent être en pyjama avec une passoire sur la tête, ils seront quand même là. Mais bougez-vous, ça fait déjà 10 minutes que je devrais être devant la FNAC en train de crier des trucs sur les Illuminati. Il y en a qui bossent, bordel. Moi, j'essaie de réinjecter un peu de chaleur dans tout ça, parce qu'on parle trop peu aux inconnus, finalement, par choix dans la rue. Tu vois, on interagit peu, quoi, à part quand tu dois faire un constat parce que t'as roulé sur quelqu'un, tu vois, sinon, on se parle peu. Alors, moi, j'essaie de parler aux gens, particulièrement aux personnes âgées. La solitude chez les personnes âgées, c'est un fléau. Donc, je me dis, ça leur fait du bien à eux, ça me fait du bien à moi. Mais attention. C'est peut-être pas des bobos de merde, mais tu peux tomber sur des vieux un peu... Enfin, tu sais jamais sur qui tu tombes quand tu parles à un vieux, c'est ça la réalité. L'autre jour, j'étais à la boulangerie, j'étais en train de regarder la vitrine comme ça, et il y a une vieille dame qui m'aborde, qui me dit « Ça fait longtemps que vous habitez dans le quartier ?» Je dis « Non, quelques mois, et vous ?»« 74 ans, je dis bon. » Et ça a beaucoup changé depuis que les nazis sont partis, et elle me dit « Non, mais ça va, en tout cas, on est toujours content de voir des jeunes. Le vrai problème, c'est les noirs. » Ah putain, je t'avais donné ma confiance. Je brave l'antipathie ambiante pour qu'on se cause et tu me trahis, ça fait chier. Je veux donner sa chance au monde, hein, mais tu tombes sur des fachos, forcément. Bah, c'est un peu ça le problème avec les vieux en réalité. C'est qu'à la base, tu vois, ils ont tous l'air mignons. Ils marchent.
Ah, tu parles, non, mais ceux-là, oui. ils sont c'est nos vieux d'Inter, c'est pas les mêmes.
Ils sont tout bien comme il faut.
Ils sont propres, nous.
Mais il y en a qui leur ressemblent dans la rue, tu vois, qui sont pareils, qui marchent lentement, qui s'habillent en gris clair, comme ça, qui sont tous en camouflage. Mais dans le tas, il y a des collabos, forcément. Tu vois, c'est statistique. C'est juste que c'est difficile de les reconnaître à l'avance. Alexis, le Signal en parlait à cette même place il y a deux semaines. Peut-on aider des vieux alors qu'on ne sait pas où ils étaient pendant la guerre? Et ben, je trancherai en disant peu importe leur couleur politique, évidemment parlons aux vieux, aidons les vieux, enlevons-leur juste le droit de vote, parce que à un moment donné, si t'es pas là pour voir les conséquences de ce que t'as choisi, tu devrais pas pouvoir choisir. Par exemple, c'est pas légal de faire une playlist pour une soirée à laquelle tu vas pas aller, tu vois. Moi, je peux pas arriver chez des potes et dire « Je vous ai préparé un petit mix, 2 heures de Lou Béga, moi je me casse, profitez bien !» Mais peu importe les déceptions rencontrées sur le chemin, pour en revenir aux inconnus à Paris, moi je suis pas refroidie, hein, j'ai envie d'y croire. C'est pourquoi j'en fais la demande formelle sur les ondes publiques. Si on se croise dans la rue, parlons-nous. Parce que j'ai envie de l'aimer, cette ville, et d'un jour ne plus simplement être une sale bobo de merde, mais une sale bobo parisienne de merde.
Oh, merci Marie Romane.
France Inter, midi, la bande originale.
Oh, mais tu vas y arriver. Au théâtre du Gymnase Maribel, donc à Paris, pendant une quarantaine de représentations, donc dépêchez-vous, quoi, force battre pour y aller. En plus, ça remplit bien. Vous êtes content du taux de remplissage. Puis après cette émission, ça va doubler. Vous avez refusé du monde, c'est dingue.
Ah bah,
c'est arrivé. Non, parce qu'on va encourager vraiment les personnes à aller vous voir et aller applaudir. Le point de départ est donc cet auteur qui, sous prétexte d'écrire une nouvelle pièce qui est totalement faux, comme ça on ne gâche même pas la pièce, vous savez que tout est faux, il veut juste tuer un maître chanteur par amour pour sa femme. C'est même c'est une histoire d'amour, cette pièce, et avec des péripéties dans tous les sens. C'est drôle, c'est rythmé.
Et il est pas doué, quoi.
Il est pas doué. Non, ça c'est clair qu'il est pas doué, mais c'est pour ça qu'il est drôle.
Il est pas complètement doué.
Il sait même pas tenir. Une arme.
Il a des idées.
Parfois,
mais...
il a quand même des réparties.
Enfin, il est débutant en tout cas.
Il a des réparties, il s'en sort quand même. Enfin bon, c'est un peu...
Et puis il y a votre belle-mère. Ah ouais.
Belle-mère, Bernadette Le Sachet, qui est formidable.
Ah, tu dis Le Sachet tout à l'heure, j'ai dit Le Sage, pardon. Oui, c'est Le Sachet, je suis désolé.
Mais elle est formidable. C'est là où on voit d'ailleurs que c'est toujours dans. dans le comique, même aujourd'hui, de nos jours, les rapports belle-mère.
Ça marche toujours.
Ça se marche toujours.
Oui, parce que tout le monde s'identifie à la situation, exactement, évidemment, dans laquelle on peut se retrouver.
C'est drôle parce que dans la pièce, c'était la bonne. La bonne à domicile étant quand même un peu désuète, voilà.
Ouais. Enfin, désuète.
enfin.
Ça prend un autre nom, mais il y en a toujours. C'est le travail à domicile maintenant, c'est pas pareil.
D'accord.
Ça existe.
Il l'a transformé pour la belle-mère.
Très bien, d'accord.
Mais belle-mère, c'est pas mal parce que.
Ça fonctionne.
Non, ça fonctionne parce qu'il a trouvé un truc, Benjamin, très très bien, c'est qu'en fait, il en fait une accro aux séries, quoi. Donc elle est devant sa télé tout le temps, et donc par rapport à ce que je fais, la pièce policière.
Ouais, elle est très pointue sur le policier.
Ouais, c'est ça, elle s'y connaît. Et si elle voit son gendre avec un revolver dans le salon et un cadavre à côté, elle trouve ça tout à fait normal. Oui, ou alors, au contraire, c'est pas crédible, vous le tenez pas bien ce revolver, faut le tenir loin.
Et sans dévoiler une scène savoureuse de la pièce, à un moment donné, il y a des vrais voyous qui viennent de me demander des comptes, et elle pense que c'est des acteurs. Donc vous voyez ce que ça peut donner.
Avec donc Jérôme Anger, Guillaume Brillat, Didier Brice, Clotilde Agneau, Grégory Kidel, Bernadette Le Sachet, pardon Bernadette pour tout à l'heure, Jenny Anne Walker, qui elle joue la Canadienne ou la Québécoise.
Alors elle fait la
non, il se trouve qu'elle est Québécoise, et on lui a dit, bah, gomme pas ton accent parce qu'on adore. Hein.
Ouais, vraiment Québécoise. Mais...
Ah bah d'accord, ok, bah, c'est un très bel effort.
Elle est surtout agent immobilier.
Ah, on dit tous les défauts d'entrée. Audrey Fleurot, Didier Bourdon et Dominique Pinon, donc, ça s'appelle Joe. On va évoquer la musique dans vos vies dans les années fin des années 70. Vous écoutiez Audrey Fleurot à la maison,
merci
en tout cas.
Merci papa pour la balade, pour le pique-nique. Merci maman, merci papa pour la balade.
T'étais rock.
Je la connais même pas celle-là.
C'est Anne Sylvestre.
Non, mais bien sûr, c'est Anne Sylvestre.
Vous avez pas un truc dans la bouche par hasard, non?
Non, c'est une dent.
J'ai une pastille dorine parce que j'aime. Oh, je peux rien vous cacher.
Non, en même temps, ça s'entend.
C'est compliqué en même temps.
Vous avez eu la fève.
Bah, ouais, je suis née en 77, donc les Fabulettes, Anne Sylvestre. J'allais pas vous mettre les Sex Pistols, même si en 77, évidemment, c'était plutôt les Sex Pistols.
Donc il n'y avait pas de Fabulettes à la maison?
Il y avait complètement les Fabulettes, mais les Fabulettes, elle en a fait plein. Donc en fait, je me rends compte qu'il y a plein de générations d'enfants qui n'ont pas écouté les
volumes.
Mêmes.
Il y a 6 volumes, c'est vrai. Il y a 6 volumes.
6 volumes.
Ouais, 6 volumes de Fabulettes.
Alors par exemple, ça, c'est pas dans mes.
Dans les vôtres.
Non, c'est pas dans les. Mais bon, en tout cas, c'est le concept de la Fabulette d'Anne Sylvestre.
Et on a évoqué tout à l'heure, Audrey Fleurot, la vocation qui est venue d'un soir, comme ça, où papa vous entraîne au théâtre. Vous étiez aussi à l'école du cirque d'Annie Fratellini.
Ouais.
Ça c'était.
Qui existe toujours cette école.
Oui.
Hein,
je voulais être circassienne.
Ce qui n'est pas un gros mot. Hein. Circassienne, ça veut dire simplement faire du cirque.
Tout à fait. Je l'ai fait pendant 4 ans. C'était dur. C'était super dur. Elle n'était pas rigolote du tout.
Ouais.
Et surtout, il fallait faire absolument tous les agrès. Et par exemple, moi, j'ai jamais réussi à jongler avec 3 balles.
Mais quelle leçon en même temps. C'est génial. J'imagine l'expression corporelle. Et puis, peut-être que l'on apprend rapidement la force du travail. C'est-à-dire qu'en refaisant 10 000 fois un exercice, on finit par le savoir. Ça doit être une vraie leçon dans la vie, ça.
Oui. Mais j'adorais ça.
Excusez-moi, je vous dérange.
Je me suis rendu compte qu'on était vraiment dépendant du corps, et que dès qu'on se pétait un truc, bah, c'était compliqué. Et donc, assez vite, je me suis dit, oh là là, non, on est... Donc, j'ai adoré faire ça.
Didier, toi tu comprends ce que je dis?
Oui, c'est au bout de 10 000 émissions que t'as réussi à en faire une de bien, c'est vrai.
N'importe quel sport, vous refaites le même geste, je ne sais combien de fois.
Exactement. Sauf que quand on prend des cours de foot, de tennis ou de rugby, on se rend peut-être pas forcément compte, quand on est gamin, de l'importance de reproduire le même geste de coup droit ou de revers pour finir par réussir ce coup droit. Au cirque, si on tombe du fil sur lequel on est,
on meurt.
Voilà, on se rend bien compte que le geste n'était pas bon. Quoi. Voilà.
On tombe souvent avant de tenir.
C'est ça. Et donc, c'est l'école de la vie.
Moi, je pense aussi aux poutres. Je ne sais pas comment ils font.
Combien de fois on se fracasse sur la poutre avant de faire la souplesse arrière sur la poutre, que je serais incapable de refaire, hein, évidemment.
Mais la danse aussi, c'est pareil, j'imagine. C'est la danse qui est venue après le cirque ou avant?
Après, parce que justement, moins violent. Je me suis dit, bon, là, a priori... Au pire, c'est pas joli.
Didier, vous écoutiez fin des années 70. Qu'est-ce que vous avez comme image en réécoutant Police et Message in the Bottle? Vous voyez
Sting avec Maître Gims aujourd'hui, c'est
ouais,
ça.
C'est... Quel parcours.
Mais pourquoi pas.
Pour qui
non, bah oui,
c'est. Non, on va préciser que c'est vrai, il y a véritablement duo Maître Gims Sting
ouais,
en ce moment.
Mal, ouais, non. C'est vrai. Il envoie bien aussi Gims. Non, mais j'adorais, ouais, j'aime toujours. Et parce que ce que
là,
j'aime
vous,
beaucoup,
vous,
non.
Vous voyez en train de l'écouter dans une chambre d'étudiants, vous voyez à un concert de Police dans les fins des années 70.
Non,
vous
concert, non, pas trop, mais ouais, ça me rappelle les souvenirs. Et puis c'est un petit peu, j'aime bien travailler comme ça, c'est-à-dire c'est paraît simple, et en fait c'est très compliqué. Enfin, c'est
vous parlez quoi
en guitare. En arrangement.
À l'écriture de la musique de Police.
Voilà.
Ça paraît simple, mais c'est compliqué.
Voilà.
Et encore, ils étaient que trois.
On a essayé de faire.
Ils n'étaient que trois musiciens.
Ils
n'étaient que trois musiciens.
Oui, mais ça balance bien.
Guitare, basse, batterie. Ouais.
Alors, on a pas n'importe quel guitariste, c'est pas n'importe quel batteur.
Et on revient au service militaire parce que dans ces années-là, votre mère réussit à négocier, je crois, avec le maire de la ville.
Monsieur Péricard.
Ouais, de pas vous envoyer trop loin au service militaire.
Oui, parce que j'avais la médaille de la ville, j'étais le plus jeune à être entré au conservatoire, et bon, voilà, j'étais allé à Maison Lafitte. Voilà. Ce qui m'a permis, en effet, de garder quelques contacts avec le conservatoire. De temps en temps, j'allais voir mes copains.
Ouais. Et vous apprenez le morse, essentiellement, je crois.
Oui, et le morse me sert toujours aujourd'hui, et c'est toujours utile. Parce que.
Ouais.
Ben, c'est-à-dire que le morse, en fait, c'est-à-dire que si un jour on a un problème.
Oui, on avait compris, Nagui. On l'a pas relevé la première fois.
J'imaginais Didier Bourdon, si vous avez un problème, vous faites le morse et vous verrez.
Voilà. L'hôte que je suis va rire. Donc, l'hôte. Bon, alors, oui, le morse est très utile parce qu'il paraît, et c'est toujours d'actualité, s'il y a un problème de connexion, on détruit les trucs. Le morse, on peut encore communiquer en morse avec.
Enfin, c'est
universel.
Qui communique en morse aujourd'hui
Les marins, peut-être. Plus qu'on le pense.
Ah bon, je pense.
Oui, parce que c'est un moyen assez simple de communiquer à partir du moment où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de. Ouais, c'est des ondes magnétiques, enfin, c'est ce qu'on m'a expliqué.
D'accord.
Nagui en morse, ça ferait du dit, du dit. Ah, le G, merde, je me suis un peu avancé. Le U, c'est du dit. Parce que le V, c'est. C'est le V de la victoire, c'est pour ça. De la cinquième. C'est assez marrant. Et SOS, normalement, c'est.
Est-ce que tu le sens Tu le sens le moment de solitude ou pas la DJ?
Non, pas du tout, parce qu'il y a des gens sur France Inter qui écoutent ça.
C'est un truc de drague hyper efficace, je suis sûr. Attends, je te fais ton prénom en morse.
Ouais. Ça, c'est Nagui. Et Kadour Boudadi en morse?
Leïla, L-E.
Alors, L, c'est Didi Dada. Le E, c'est. C'est deux Titit, je crois.
Faut pas qu'il y ait une couille tout de suite, quand même.
Et alors, ce qui est utile aussi en morse, c'est avec les lumières, on peut le faire. Sur les bateaux, c'est utile.
C'est vrai.
De loin faire. Mais le SOS, oui, c'est ça, ils font STS pour aller plus vite. Au lieu de faire trois longs, ils font qu'un seul long. Ça fait tit. Mais ça, c'est STS.
Normalement,
c'est SOS.
Trois points, trois traits, trois points.
Voilà. Mais pour aller plus vite, ils font trois points, un trait, trois points.
D'accord.
Et ça m'a été utile.
C'est pour ça qu'ils sont jamais sauvés, parce qu'ils.
Ah, ils coulent.
À l'époque, j'écoutais les trucs de Police, maintenant, c'est rien, et j'arrivais à décrypter. Parfois, c'était la machine de Turing, donc c'était compliqué. Mais parfois, ils disaient, ouais, tiens, rendez-vous machin.
Quand vous parlez de police, vous parlez de la vraie police,
pas de police
qu'on était en train d'écouter.
Ouais,
je suis en train de me perdre, Didier Bourdon, et vous êtes en train de me perdre aussi un tout petit peu.
Et il y a du morse dans le film qui a eu la Palme d'Or.
On a dit qu'on allait
dans
s'arrêter.
Parasite.
Là.
Dans Parasite, il y a du morse.
Ah oui.
Ah bah ouais, toujours quelle culture. On est fin des années 2000, début 2010. Audrey Fleurot, vous écoutiez. Return to the Mac, get up, what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, fresh shot, hip strut walking, a little bit of humble, a little bit of kindness.
J'ai quelques-uns écoutés, hein.
Anne Sylvestre, elle a changé de style.
Elle a fait une claque, hein.
Alors, ça dit quoi en morse, là? Pas d'idée.
Ah, mais le morse, tu peux aller très 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 vite.
Macklemore, Can't Hold Us. Il se passe quoi avec cette musique dans votre tête? Vous avez quelle image de votre.
Oh bah non, mais moi, c'est que regardez, on a tous envie de se lever.
Ouais, de danser.
On a envie de danser, partir. Ce qui est quand même assez. Moi, il n'y a rien qui m'énerve plus qu'une soirée dansante avec un DJ qui ne fait pas danser les gens, ça me rend dingue.
Est-ce que vous êtes la première à danser?
Mais je suis évidemment la première à danser, c'est-à-dire je ne vais à une soirée que s'il y a une perspective de danser, c'est-à-dire que si on discute pendant des plombes, ça me saoule, je bois pas énormément, donc au bout du deuxième verre, je m'ennuie. Donc s'il n'y a pas de perspective de danse, et quand il y a le dance floor et qu'il y a un DJ,
c'est la bonne copine invitée, c'est
qui met que de la musique, ouais, qui n'est pas dansante, ça me rend dingue.
Moi je rêve d'être dans une soirée où il y ait et Audrey et Leïla.
Ah mince.
Bah oui, parce que t'es aussi la première à vouloir aller danser sur la piste, écoute.
Ouais, bah, c'est les filles essentiellement qui ont envie de danser.
C'est vrai,
hein.
Et dans ces années,
garçons, pas bougé.
Dans ces années 2000, Audrey Fleurot, vous sortez de l'ENSAT et vous ne connaissez pas de temps
non.
mort.
Non, non, on est...
Ah, on n'est plus en 2000.
Ah non, on est en 2010.
Ah ouais, d'accord.
Ça, le
je
temps
pas la bonne année.
Passe à une vitesse.
Oh là là,
on a
ouais.
sauté plein d'années.
Oui, ouais. on est en 2010.
Ah ouais, d'accord. Et ben, on vous retrouve au cinéma. Dans Intouchable. Non, mais parce qu'avant, il y a eu des années hyper intéressantes où vous sortez de l'ENSAT.
Hyper intéressant.
Où vous enchaînez le théâtre à fond. Ensuite,
on est passé d'Anne Sylvestre ouais. à Intouchable.
Bon, en tout cas.
C'est des trucs dingues au milieu.
Voilà, vous enchaînez plein de théâtres. Ensuite, vous commencez dans la série Engrenage et aussi Kaamelott. Et on vous retrouve en 2010, début 2010, dans Intouchable. Qui a été un succès qu'on sait absolument et chez Woody Allen aussi.
Oh, j'en peux plus de parler de Woody Allen. Non, sérieux, j'aurais jamais dû en parler.
Pourquoi? Mais vous êtes nombreux hein, dans ce
parce
cas.
Que le truc c'est que c'est en fait comme
vous parce regrettez que... d'avoir raconté un truc, c'est ça?
Mais c'est parce que en fait concrètement on m'a demandé alors c'était bien. Eh ben c'était pas bien. Je tournais deux jours, je tournais le village français deux jours et ça c'était un tournage de nuit.
Ce que vous regrettez c'est la manière.
C'est de l'avoir communiqué.
Ce qu'on en fait oui, en disant elle règle ses comptes avec Woody
Allen.
Oui,
parce que je veux dire on a tous été coupés au montage. C'est des choses qui arrivent. C'était pas plus grave que ça. Je me suis juste dit oh, bah, j'aurais pu m'épargner ça parce que c'était vraiment fatigant. Mais je veux dire que c'était pas un big deal.
Non, mais j'avais pas encore posé la question sur
pardon,
Woody Allen.
Pardon, excusez-moi, non, parce que après les choses ne vous appartiennent
c'est
pas ça, plus.
C'est,
on
c'est,
plus à...
c'est qu'il y a eu une phrase qui a été dite et qui prend évidemment une autre tournure, une autre dimension quand on sait ce qui se passe autour de Woody Allen et de sa vie privée. C'est surtout ça. C'est pas le fait d'être coupé au montage qui pose
ah
un problème.
Non, mais moi j'ai eu tellement peu de contact avec que je suis vraiment pas à même.
Vous dites, je suis allé dire bonjour à Woody Allen. Il a fait un bond de 2 mètres en arrière comme si je l'avais violé. Vous imaginez que cette phrase là prend un autre sens. Quand
mais non, mais parce
Woody
que
Allen.
Nous, les Français, je veux dire, on a un contact direct avec le réalisateur. Là, c'est très codifié. Les Américains, vous êtes obligés de passer par le premier assistant, voire de passer par le deuxième qui passe par le premier qui passe. Et on tournait la première jour à La Pérouse, qui est vraiment un tout petit endroit. Donc, c'était confiné. Il a 1 mètre de moi. C'est le premier jour. Je vais me présenter. Je suis hyper contente. Et c'est vrai qu'il a un mouvement de recul complètement disproportionné. Et c'est assez drôle, quoi. Tu dis, bon, en fait, il a encore plus caricatural que son personnage.
Mais c'est les Américains voilà. étaient au courant. Ah ouais, Weinstein, il a envoyé un mot pour dire je vais te violer demain soir. C'est très américain, c'est codifié. Faut le savoir.
Ça passe par le premier assistant, mais.
Tout le monde est au courant.
Ce qui se passe autour de Woody Allen ou justement de Weinstein et de tout ce monde du cinéma, vous avez déjà essuyé des regards que vous avez eu le sentiment de trouver agressifs. De la part de producteurs ou de réalisateurs
Non, mais c'est-à-dire que bon, bah moi je vais pas lire des scénarios à 3h du mat dans une chambre d'hôtel. Donc,
mais Audrey, vous pouvez pas dire ça parce que ça voudrait dire que c'est la faute de la comédienne.
Non, c'est pas ça. Je pense que c'est un endroit de fragilité où on peut effectivement profiter de vous, mais c'est une emprise qui est pas que physique. À mon avis, c'est plus une emprise psychologique où je pense que c'est évidemment compliqué de face à des hommes qui peuvent concrètement faire votre carrière ou la détruire.
Ouais.
Je pense que c'est mais on parle du cinéma mais moi je pense que c'est la même dans le monde de l'entreprise,
dans tous les métiers.
Ouais. C'est la même dans tous les métiers, c'est juste que je trouve ça très bien que le débat public soit ouvert là-dessus, je pense que ça existe depuis la nuit des temps.
Et que maintenant
la parole se libère. Je pense qu'il va y avoir des excès comme dans n'importe quelle révolution, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des mecs qui vont morfler et qui avaient rien à se reprocher, mais de toute façon, ça fait partie des révolutions. Il y a forcément des têtes qui tombent. Et je pense que c'est très bien, évidemment, qu'on en parle. Je ne sais pas si ça solutionnera le problème. Mais en tout cas, que les mecs réfléchissent un peu plus et ne se croient pas tout puissants. C'est super important.
Vous avez eu ce sentiment-là? Ça vous est déjà arrivé?
Oui. Après, c'est vrai que moi, je m'en suis toujours sortie. Je me suis jamais retrouvée dans une situation où j'étais acculée.
Oula, faites attention.
Très bien prononcé. Mais évidemment que c'est évidemment. En plus, c'est un métier qui fonctionne sur le désir, donc c'est.
Non, mais ce que disait
compliqué.
Audrey, il y a aussi un truc, c'est que non seulement c'était quelqu'un, ce sont des personnes qui non seulement voilà, peuvent vous empêcher de tourner et ensuite peuvent détruire aussi votre carrière.
Ouais, il le menace clairement.
Et oui.
Tout à l'heure, tu faisais une vanne sur un producteur qui vous a clairement menacé aussi de détruire votre carrière.
Oui, exactement, psychologique.
Alors, c'était pas une violence physique, c'était une violence psychologique.
C'est pour ça, d'ailleurs, il faudrait rétablir et défendre un peu les hommes. La violence psychologique, elle existe aussi du côté des femmes. Hein, attention, ah oui, on le sait.
Comme elles sont moins souvent au poste de pouvoir, elles l'exercent sans doute moins. En fait, c'est aussi ça l'histoire.
Ça dépend. Ce qu'on appelle le pouvoir, la séduction, c'est un pouvoir énorme. Énorme.
Je sais.
Il prend ses responsabilités.
Moi, ça me sidère encore plus les politiques, parce que tu te dis, il y a forcément un moment où ça va ressortir. Donc, je pense que le pouvoir leur donne l'impression d'être intouchable. Et c'est vraiment, vraiment important qu'il le soit plus, en tout cas.
Non, là où il faut être prudent aussi, c'est que chaque affaire est très, très séparée. On a peut-être mis un peu tout le monde dans le même sac.
C'est un débat quand même un peu sérieux,
voilà,
important.
Voilà,
c'est
voilà.
Pas le truc qu'on peut résoudre
en trois minutes,
ouais. Au comptoir.
Surtout avec Jacques Pessis, qui est là. Jacques, bonjour.
Bonjour, Nagui.
Journaliste, écrivain, producteur, réalisateur, auteur. Je me demande ce que vous faites pas dans la vie. Hein.
Comme vous.
Non, j'en fais moins. Moi, je suis pas réalisateur, je suis pas écrivain, je suis pas journaliste. Vous faites des documentaires sur les chanteurs français. Vous avez une émission quotidienne qui s'appelle Les Clés d'une Vie sur Sud Radio.
Oui, juste à côté.
Nos confrères, voilà, de 13 à 14 heures. Vous êtes l'un des spécialistes du théâtre de boulevard. D'ailleurs, comment on peut définir ce mot théâtre de boulevard? C'est vraiment l'adresse des théâtres qui sont sur les grands boulevards parisiens qui ont donné le nom à un genre de théâtre.
Au départ, oui, au 18e siècle, et puis ensuite ça a évolué vers le vaudeville avec Feydeau qui a été le précurseur. Et Feydeau qui n'a pas eu du succès tout de suite. Sa première pièce qui était Le Chat en poche a été joué 26 fois et après Tailleur
seulement.
Et Tailleur pour Dame a été joué 79 fois, ce qui à l'époque était un succès. Après, au XXe siècle, ça a beaucoup évolué puisqu'on jouait plus de 1000 fois certains vaudevilles, certains théâtres de boulevard.
Est-ce que les... On parle des unités de temps, de lieu et d'action pour le théâtre classique. Est-ce qu'il y a des codes comme ça, des règles pour le théâtre de boulevard?
Le mieux, c'est l'unité de temps et d'action et de lieu, mais surtout, c'est le rebondissement inattendu. Un auteur de boulevard, il écrit sa pièce et quand il a fini, il dit bon, maintenant je jette tout et qu'est-ce qui va surprendre le spectateur? Et le boulevard, ce sont des rebondissements. Alors, il y a bien sûr la tradition du
Marie-Cocu,
oui. Mais ça a beaucoup évolué aujourd'hui. Et prenez Barillet et Grédy qui ont été les rois du boulevard pendant 50 ans. Ils mettaient 6 mois à écrire une pièce et quelquefois il y avait 2 mois sans avoir le moindre rebondissement. Il fallait un déclic.
Il y a des schémas de comédie, il y a une structure. Dans Joe, par exemple, ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que Didier Bourdon a rappelé, c'est-à-dire que dès qu'il y a une solution trouvée à un problème, ça ne fait que créer un problème encore plus gros.
Mais c'est la difficulté.
C'est l'un des leviers de l'écriture comique.
Mais c'est le levier de l'écriture comique, c'est surprendre le spectateur avec quelque chose qu'on va trouver auquel on ne s'attend pas.
Même dans le suspense. Hein. Dans les séries, ce qu'on aime bien, c'est être surpris d'avoir le héros qui meurt. Oh, on s'y attendait pas.
Oui,
c'est quand même voilà.
Non, mais la notion de, enfin, ce que j'ai ressenti aussi avec Joe, c'est chaque fois qu'il se dit, allez, là, c'est bon, c'est réglé. Ce qu'il a trouvé comme étant bon et comme réglant le problème,
ça s'écroule.
Ou devient encore un plus gros problème derrière. Ouais.
C'est une belle écriture. C'est vrai, c'est un beau travail d'auteur. Hein.
C'est une écriture presque moderne.
Ah oui, ça a pas vieilli. On voit les réactions. Oui,
d'après moi, Barillet, par exemple, Pierre Barillet, pendant des années, on ne parlait plus de boulevard. Quand il est revenu, quand on a rejoué ses pièces comme Fleur de Cactus ou Peau de Vache, le public est revenu, car le théâtre de boulevard, comme l'absurde, c'est indémodable.
Oui, moi, quand j'étais au conservatoire, Barillet et Grédy, si on prononçait le nom, on sortait le Barillet. Hein.
Mais bien sûr.
Et après, il y a eu Potiche et tout.
C'était,
donc, comme quoi.
C'était honteux, c'est ça.
Ah, voilà, oui.
Michel Faux a ce micro. Nous avait expliqué qu'il voulait le rendre
lettre. Il y a Potiche aussi qui est tiré de Barillet.
Ouais. Potiche qui a été un vrai succès au cinéma, qui a relancé Potiche. Et Potiche, dont l'idée est venue sur un déclic. Bernard Chirac a parlé à la mairie de Paris en disant que je ne serais pas une Potiche. Et c'était le déclic qui a permis à Barillet et Grédy d'imaginer la pièce.
Ah, génial.
C'est Bernadette Chirac qui a donné l'idée de la pièce?
Bien sûr, parce qu'elle a dit à la mairie de Paris, je ne serais pas une potiche.
Oui, non, j'ai entendu, voilà. Merci Jacques.
Mais c'est
associé Bernadette Chirac et comique, peut-être, qui a surpris.
Oui, mais ça peut arriver.
Pour en revenir à Joe, l'amant n'est pas dans le placard. C'est plutôt le cadavre qui est dans le placard, en fait.
Là aussi, c'est la modernité du boulevard, du vaudeville. Feydeau a tout fait dans le genre. Feydeau, il avait une particularité, il écrivait ses pièces en parlant et en debout dans son bureau, et quand il riait, il gardait le sujet, il gardait l'anecdote ou le dialogue.
Donc il avait son gueuloir un peu comme c'est Flaubert, c'est ça qui avait
Exactement, son gueuloir.
C'est ça. Ouais. Il décriait les pièces à haute voix.
À haute voix, et si ça marchait, s'il riait, il acceptait le dialogue et il repartait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les situations ont bien évolué. Quand vous prenez le boulevard moderne d'aujourd'hui, il y a des tas de choses sur l'actualité, sur Internet, qu'on peut utiliser pour partir d'une idée pour transformer.
En quoi il est moderne le boulevard aujourd'hui?
Les situations. Le principe n'a pas changé. Les situations.
Bah, donc si ça n'a pas changé, c'est que c'est pas.
Parce que les sujets. Internet. On parlait pas d'Internet, de Barry et Grady. On parlait pas de la télévision.
Non, j'entends. Mais enfin, là, c'est plutôt les accessoires qui.
Les accessoires.
Mais la toile de fond, l'histoire, le rythme.
Jamais. Et ça ne changera jamais.
Est-ce que c'est un genre qui vit bien aussi dans d'autres pays?
En Angleterre.
Ouais.
En Angleterre, Ray Cooney, par exemple, dont plusieurs pièces ont été adaptées en France, a été le roi du boulevard. Mm-hmm. Il y a toute une nouvelle génération.
Il a fait quoi déjà lui? Parce que c'est vrai que le nom me dit quelque chose.
Bah, à la Michaudière, Gérard Jugnot et beaucoup d'autres ont joué des pièces de Ray Cooney.
D'accord.
Et aux États-Unis, il ne faut pas oublier que la France est connue aussi par le théâtre de boulevard. Fleur de Cactus a été jouée par Lorraine Bacall en son temps et par d'autres comédiens. Ça a été un immense succès. Le théâtre du boulevard français s'exporte très bien.
Il y a une question de rythme dont nous parlions tout à l'heure. Est-ce que la mise en scène, le décor, les accessoires, enfin tous les éléments que l'on peut prendre sont des ingrédients propres au théâtre du boulevard aussi?
Oui, il y a surtout le rythme dont vous parliez tout à l'heure, c'est Didier, c'est-à-dire que vraiment chaque réplique doit sonner. Si on rate un dixième de seconde, c'est fichu. C'est comme les branquignoles de Robert Derry. Quand un dixième de seconde, il y avait un retard sur un mot ou sur une situation, c'était fini. On ne riait plus.
Quelles sont vos références d'ailleurs en matière de boulevard, Audrey Fleurot? Est-ce que vous êtes cliente de ce genre de
énorme.
Théâtre?
Moi, je regardais au théâtre ce soir. Moi, j'étais totalement. J'ai archi fan de Jacqueline Maillan, de Maria Pacoum.
Sophie Desmarais. Elle donne l'impression d'improviser, d'avoir énormément d'improvisation, Maillan et Pacôme. De ne pas s'en tenir au texte.
C'est comme les grands acteurs. Masculin, enfin, on sait que il y a une pièce de départ et puis il y a tous les rajouts, hein, qui étaient vraiment
les Hirsch, les Jacques Charon et
bien
autres.
Bien sûr, je pense qu'elle faisait l'équivalent. Hein.
Non, Jacqueline Maillan, elle surprenait ses auteurs, elle trouvait des choses à la fin, elle ne prévenait personne, et quand Barry et Grady arrivaient, ils voyaient quelquefois une fin tout à fait différente, mais ça faisait rire le public.
Ça c'est pas possible. Est-ce que vous permettez Didier de changer des choses?
Pas vis-à-vis d'auteur, mais
vis-à-vis de la seule. Hein. Ça vous arrive déjà?
Oui, elle fait la gueule, Audrey. Mais
non, parce que moi, faut s'adapter en face pour pas couper,
Non, mais je fais attention.
Apparemment pas. Racontez-nous tout.
On a joué trois fois en plus. Non, mais je vois effectivement. Pour moi, c'est très nouveau. Je trouve ça super excitant justement d'être dans
ce. De pas faire deux soirs identiques.
Moi, je viens d'un théâtre où vous changez pas un mot, quoi. Sinon.
Dans le site, c'est un peu gênant quand même.
Et là, je sens que ça fait partie du truc, quoi.
Est-ce que ça vous donne envie d'improviser aussi?
Moi, je me l'autorise pas encore.
Non,
c'est vrai, je me l'autorise pas encore.
C'est le moment où j'avais.
Attendez, on a quelques représentations, je vais voir un peu, mais.
Est-ce que, juste une dernière question avant de vous libérer, Jacques Messis, puisque justement Léla parlait de du côté international ou pas du théâtre de boulevard, est-ce qu'il y a la French touch? Est-ce qu'il y a vraiment une écriture bien particulière en France?
Il y a une écriture très particulière qui est celle du rebondissement qui surprend, qu'on fait maintenant aux États-Unis, mais c'est la France qui a inventé tout ça après Fedeau, et tous les Américains et les Anglais, comme le comédie musicale, nous ont copié et ont assuré la relève.
J'ai oublié, pardon, de parler de I Love Piaf. Oui. Vous reprenez ce spectacle à partir du 14 octobre, les lundis, mardis et mercredis à 19h à la scène parisienne.
Vous avez le scoop, personne ne le sait encore.
Ça me gêne, Jacques.
Avec Anaïs Delva, qui chante Piaf merveilleusement.
Parfait. Merci d'être venu à ce micro nous éclairer sur le théâtre de boulevard. Tanguy Pastureau, bonjour.
Bonjour, Nagui.
Vous nous parlez d'écologie.
Oui, Nagui, puisque samedi, des jeunes, ces êtres purulents qui écoutent Jules, nous ont donné de l'espoir à nous, les vieux, qui pensions aller déguiser en caniche pour les faire piquer par un veto un peu bigleux. Ils ont marché pour le climat, et ça marche puisqu'il faisait trop sec et que depuis, il pleut.
Ça sera après les infos de midi.
La deuxième partie de la bande originale avec tout l'ensemble de la compagnie qui travaille autour de Nagui.
Comme ça, tu t'en es débarrassé.
C'est
très bien. Elle reviendra toute l'après-midi.
C'est super. Hein.
Toute l'après-midi, elle reviendra.
Je ne peux pas le dire à chaque fois.
Tu te débrouilles, Laetitia Gaillet.
Ouais, j'adore.
Toute l'après-midi, donc, les infos présentées par Laetitia Gaillet. Puis à 13h, on joint à
13h
et Bruno Duvic.
À tout à l'heure. bande originale avec Lilia Kadoubou-Dadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Amiel Morin.
Bonjour Marina.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Bassureau.
Salut.
Et tout ce monde pour Audrey Fleurot et Didier Bourbon.
Allez.
Ça s'appelle Joe, c'est...
On a perdu Didier.
Encore.
Il est en hypoglycémie.
Il y a encore 37 représentations, hein, puisqu'on en avait fait que 3, il y en a 40 en tout.
Et fort en maths.
C'est
une bête. Hein.
Au théâtre du Gymnase, Maribel, c'est à Paris. Cette pièce d'Alec Koppel, qui avait été adaptée pour être un film dans les années 60, 70, je ne sais plus.
71.
Avec Louis de Funès, tu parles. Avec Louis de Funès ça. Et Billet Idine. N'importe quoi. Et dans cette pièce, donc Audrey Fleurot, Didier Bourdon portent cette pièce aux côtés de Dominique Pinon, entre autres. Une pièce qui demande une hygiène de vie pour être en forme ou pas. Audrey, ça vous fait rire? Ah, le film est vraiment, le film est vraiment de 71, on me le confirme.
La pièce avait été jouée un petit peu avant, dans les années 60. Les années 60.
Pourquoi vous riez quand je vous demande si votre hygiène de vie est parfaite?
Non, mais globalement, pour être acteur, hein, mine de rien, faut un peu faire gaffe. Enfin, il y a deux catégories. Il y a aussi la catégorie je me défonce et ça donne des trucs pas mal non plus sur du court terme.
Oui, avec modération, on va dire avec modération.
Oui, on est sur France.
Mais
on est pas sur Radio Nova.
Non, mais
moi j'ai arrêté l'alcool fort.
Non, mais c'est vrai qu'il faut être un peu. Mais à la fois, c'est fascinant, c'est que des fois, vous arrivez, vous êtes crevé, vous dites oh là là, celle-ci elle va me coûter, mais ça va être très très dur. Et elle est vachement bien. Et des fois, vous avez la pêche, vous avez fait une petite sieste l'après-midi, tout va bien et tout. Et puis, on rame. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de.
Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle.
Il n'y a pas de règle. Oui, dis-moi.
Comme au sport, d'ailleurs. Sport, c'est pareil, il paraît qu'il y a des...
J'aime bien
des...
le sport, paraît-il.
Non, bah oui, dans de haut niveau, il y a des oui,
moi
je connais...
totalement arrêté, quoi.
Je connais quelques tennisman, tu connais aussi des sportifs de haut niveau, Nagui. Oui, ils vont te dire qu'ils pensent qu'ils sont fatigués, puis ils ont les sensations, puis un autre jour, ils se préparent bien, ils ne les ont pas, quoi. C'est terrible, hein, c'est...
Et je me demandais à quoi ressemblait une journée, justement, avant de jouer. Est-ce que c'est vraiment une journée si ordinaire? Est-ce qu'on parvient à faire des choses un peu...
quotidienne normale,
ouais, habituelles, ouais. Sans penser que le soir il se passe quelque chose, ouais.
On pense toujours au soir.
Moi dur, j'ai pas le choix, hein. il y a des enfants, il y a des trucs à faire, il y a des courses à faire, c'est assez il y a une grosse charge mentale, mais c'est après, c'est plus compliqué quand on est à la maison finalement que quand on est en tournée. Quand on est en tournée, toute la journée évidemment est plus focalisée autour de la représentation du soir. Quand vous êtes chez vous, la vie continue, hein. Alors je suis assez contente parce que je me souviens au début quand je suis sortie de l'école, je me disais il faut surtout pas que je me fatigue et j'attends, j'étais un peu allongée comme ça. Je n'osais pas faire quoi que ce soit pour être vraiment concentrée pour le soir. Après, on désacralise un peu. L'important, on arrive assez tôt au théâtre aussi.
Voilà ce que je veux dire. Il y a palier de décompression. Vous avez besoin de quoi? De 1 heure, 2 heures avant?
On essaye d'arriver 2 heures avant au théâtre. On fait il y a la prépa. On discute un peu les uns les autres. Ça permet de, ça fait un sas, quoi.
Et Didier, vous avez pas l'air complètement
stressé.
D'accord avec ça, vous? Non, je le côté
non,
genre.
C'est-à-dire, j'en ai un peu rien à foutre. Non,
vous voyez,
non.
C'est des phrases comme ça que je retiens après.
Non, parce que non, quand je dis ça, je sais pourquoi je dis ça, c'est que il y a pas de règles vraiment. Non, ce que je me fais maintenant, c'est Balasco qui m'a dit ça il y a un an et demi. On jouait juste dans le même théâtre et elle me dit répète ton texte avant. Parce que ça te met en condition. Parce que c'est vrai que parler avec les camarades avant c'est bien, mais il faut faire attention parce que si d'un seul coup on aborde un sujet de sport,
faut
machin,
pas s'éparpiller,
après je démarre la pièce et je suis putain le PSG c'est quoi ce truc où je suis ou quoi. Donc essayer de et plus aujourd'hui qu'avant avec les inconnus moins parce qu'on était tellement je sais pas peut-être plus jeune plus j'ai moins ce souci là. Puis peut-être aussi c'était nos sketchs en se disant on les avait tellement en nous. Mais là c'est vrai qu'il y a quand même des
oui,
codes.
Vous étiez auteur de vos propres vannes, ce qui est pas le cas de
tout. Et puis là il y a aussi des trucs respecter nuls
et respecter ses partenaires aussi parce que ils attendent la fin de telle réplique ou tel mot pour réagir et vous ne pouvez pas vous permettre de trop improviser ou de mettre un autre mot à la place parce que ça évidemment ça peut troubler le jeu.
Après quand on est en écoute on sent enfin voilà
on sent. Il faut être en écoute.
Ah bah ouais, c'est la
c'est
base.
Minimum, hein. Ouais. Ça s'appelle Joe, c'est au théâtre du Gymnase avec Audrey Fleurot et Didier Bourdon. Voici Tanguy Pastureau.
C'est ça.
Ah, le mec qui boit, ouais, c'est le mec qui boit, c'est lui. Tanguy, vous allez nous parler de deux femmes qui font l'actu.
Oui, deux poids lourds de la com, on les voit plus dans les médias que l'Anne Trotro sur Peewee Plus ou Kevin Mastersek sur Dorsel TV. C'est comme l'Anne Trotro mais sans vêtements. À ma gauche, elle a 66 ans, est née au Sénégal, c'est la plus ancienne migrante. Elle a plus traîné dans le marais poitevin qu'une grenouille à trois pattes, infoutue de monter sur un nénuphar, ce qui l'a maintenue des années dans un taux d'humidité à 100% des cèpes lui poussées dans le dos. C'est Ségolène Royal. À ma droite, elle a 16 ans, est née à Stockholm. Contrairement à toutes les stars nées à Stockholm, elle n'a pas gagné l'Eurovision avec une chanson toute pourrie. C'est la dernière personne au monde à avoir des nattes dans un atelier macramé. Elle se ferait refaire la tête par 15 seniors excités. C'est Greta Thunberg. Ouais. Alors pourquoi mèche ces deux personnes dans le même sac, comme dirait un serial killer qui n'aurait pas prévu de tomber sur des jumelles? Eh bien parce que Royal et Thunberg, sur le papier, recyclé bien sûr, c'est le même combat, celui pour la planète. Elles protestent, elles se bougent, elles ont raison parce que le changement climatique c'est un enfer. Moi j'ai acheté une doudoune en 2014, j'ai encore jamais pu la mettre. À terme, ça va couler les collections automne-hiver. Et Christina Cordula va se retrouver à foutre des slips de bain à tout le monde juste parce qu'il fait 32 en Sologne. Alors bien sûr, en France, pays officiel des ronchons, on n'est jamais content. Oui, Louis XVI, il est méchant, on va le couper en deux. Oui, C8, il n'y a plus Pastureau, ma vie n'a plus de sens. Eh ben, on les critique. Royal, par exemple, elle est ambassadrice des pôles. Hein, c'est comme déléguée de classe, sauf qu'on ne défende pas des ados acnéiques, mais des pingouins qui, eux, n'ont pas d'acné. La nature est mal faite parce qu'avec leur bec, ils pourraient se percer des boutons. Hein, alors que les ados, eux, n'ont pas de bec. À part le fils d'Alain Beaugrain-Dubourg, Jean Mouette, né des amours entre son père et un Gouénan argenté. Or, la semaine dernière, la presse qui s'acharne sur Ségolène Royal, parce qu'elle est une femme et qu'elle est formidable, d'après Ségolène Royal, révélait qu'elle n'avait assisté à aucun conseil de l'Arctique. Hein, ce sont des forums dans lesquels on rencontre des Esquimaux sans bâton. Hein, ou alors, s'ils en ont un, c'est un jeu sexuel qui la veille a mal tourné. Mais il faut la comprendre. Vous iriez vous parler de trucs en train de fondre? Déjà, les pubs comme j'aime avec les mecs qui ont perdu 32 kilos en un quart d'heure, c'est pénible. Mais la banquise qu'ils font, c'est déprimant. Et Madame Royal a déjà passé 30 ans de sa vie avec Hollande. Le mec dont la plus grosse folie a été de dire chouette la fois où il a réussi à finir les mots fléchés de Télé-Loisirs. Enfin, si quelqu'un a le droit de s'éclater, c'est elle. Mais moi, si je pouvais, je l'emmènerais sur la tournée Acid House Revival dans les îles grecques avec du poppers plein saut tailleur. Mais non, il faut qu'on la critique. Alors, Madame Royal s'est défendue. Hein. Elle a dit qu'elle faisait très attention à son bilan carbone. Hein. C'est pour ça qu'elle ne bouge plus. Hein. Elle a précisé, je suis roulée en boule sans respirer dans le meuble sous l'évier de ma cuisine. Hein. Bilan carbone, moins 12. Et ben, la presse a quand même déterré un vieux dossier. En 2018, elle a fait un aller-retour en avion vers l'Islande dans la même journée pour inaugurer un bateau de croisière de luxe. Mais quel procès d'intention! Si Émile Zola était encore vivant, il dirait, je vais laisser l'affaire Dreyfus à Julien Courbet, je vais défendre Royal, la pauvre. Parce que si ça se trouve, sur le bateau de croisière, il change les serviettes seulement tous les deux jours pour faire du bien à la planète. On ne sait pas, Nagui.
Alors, une autre très critiquée, c'est Greta Thunberg.
Bah oui, alors que par des vieux mecs finis, hein, elle a mis le feu aux EHPAD, la petite. Hein. Elle s'est fait tacler par Nicolas Sarkozy au congrès du MEDEF. Les gonzes peuvent faire un Paris-New York en business sur Air France juste pour acheter des donuts. Donc, une gosse qui galère en bateau pour le même trajet, suivie par des dauphins le museau pris dans des bouteilles de cristalline, ils se sentent moins concernés que Rachida Dati par les 15 jours au champ sur le textile. Alla Finkielkraut sur Inter a parlé de la parole de Greta comme d'abstraite sommation de la parole puérile. Alors, en langage simple, Bernard Montiel, ça signifie « Eh oh, j'ai 70 piges, c'est pas une gamine qui pourrait être ma petite-fille, mon arrière-arrière-petite-fille dans le Pas-de-Calais, qui va m'apprendre à vivre. » Même Florian Philippot, qui est jeune pourtant, hein, a dit « Elle ferait mieux de retourner à l'école. » Philippot, le monsieur qui aux européennes a fait 0,6%. Il s'est fait battre par les 4 chats du parti animaliste. Donc si tout le monde doit retourner d'où il vient, il faut qu'il réintègre le ventre de sa maman pour tout reprendre à zéro. Et en même temps, il faut les comprendre, ces gens. Parce que Greta Thunberg, elle leur dit quoi? Elle leur dit, les loulous, c'est à cause de vous tout ça. Et nous, les kids, on se retrouve avec un climat aussi instable que le mental de Samina Seri. Or, personne n'a envie d'entendre, au crépuscule de sa vie, qu'il a tout fait de travers. Si dans 20 ans, le boss de la revue Diapason dit à Matt Pokora, vieux, ton album de reprise de Claude François a décrédibilisé 400 ans de création musicale, bah l'autre fera la tronche. La tradition veut que ce soit les plus vieux qui transmettent leurs valeurs aux enfants. Sauf que nous, nos valeurs, c'est le tourisme de masse, les gens seuls dans des voitures pour 5, l'avion pour se cuire le huc en République Dominicaine et la bidoche à tous les repas. Hein, donc moi, demain que les enfants contrôlent le monde, je dis banco. En plus, pendant ce temps-là, ils ne chanteront pas fini les Kids United. Hein. Non, mais il y a urgence, les abeilles disparaissent et ce matin, on n'était même pas sûr d'avoir Didier Bourdon. Oh. Hein. Voyez, un jour, Rire et Chanson me rappellera cette blague. Et je me sentirai comme Sarkozy Sarkozy le jour où son monde fut ébranlé par la petite Greta Thunberg.
Merci, Tony Pastureau. La bande originale,
lundi, sur France Inter. Et on retrouve Tanguy Pastureau le 12 octobre à Mugron, c'est dans les Landes.
Et
non, ça n'existe
pied.
Pas. Si, c'est beau, les Landes.
Allez, question sur ce qui se passe dans le monde de la culture, hein, ouais. Avec un grand M pour monde. La maison d'un couple mythique du cinéma va se vider de ses souvenirs pendant une vente aux enchères. Avez-vous l'idée?
Français?
Oui.
Un couple.
Oui, un couple mythique.
Montant-Signoret?
Montant-Signoret,
non,
j'aurais dit.
Non.
Gabin Dolan?
Non. couple mythique, vente aux enchères de tous les objets autour de ce couple. Je vais vous aider, elle est à Saint-Tropez, la maison.
Bardot?
Non.
À Saint-Tropez.
La tienne?
Nagui.
Eddie Nagui Bardot.
Michel Morgan et.
Et Gérard Rouget. Ouais. Exactement, Didier Bourdon, bien vu. Il y a le 5 octobre, le contenu de la demeure de la cinéaste Danielle Thompson sur les hauteurs. Donc, elle y a vécu avec son papa, Gérard Rouget, et Michel Morgan.
Je crois qu'ils ne vivaient pas ensemble.
Hein. Ils n'étaient pas dans la même chambre.
Ah ouais.
Ils n'étaient pas dans la même chambre.
Ah, eux aussi?
Et
comme quoi tout est normal.
Ah, c'est dommage.
Tout va partir. Est-ce que vous avez des objets ou des dédicaces ayant appartenu à des personnalités, Audrey Fleurot?
On n'est pas dans la même loge.
Pas du tout, non.
Vous n'avez jamais demandé un autographe à une
jamais
star?
Jamais de ma vie.
Jamais. Et vous, Didier Bourdon?
Si, quand j'étais jeune, à Francis Huster, parce que je l'avais vu dans Hamlet de Laforgue, il était formidable. Et j'étais un peu fasciné.
Quel est le point commun entre Elsa Triolet, Notre-Dame, Napoléon Ier et Georges Brassens?
Camoulox.
Bah, très bien, je recule de deux cases.
Francis Huster.
Il va y avoir une expo les concernant. Il va y avoir un.
Elsa Triolet, Notre-Dame, Napoléon Ier, Georges Brassens.
Ils sont brûlés. Non,
ils vont entrer ils vont avoir une récompense. Ils vont entrer, être reconnus quelque chose au patrimoine français.
C'est une forme de reconnaissance.
Dictionnaire.
L'UNESCO.
Pas non, dictionnaire. Non, Triolet, ça déjà.
En Wikipédia.
Non. Bah non, ils y sont. Elsa Triolet, Notre-Dame, Napoléon. À vos souhaits. Georges Brassens, Napoléon Ier.
Ça cette émission.
Ils ont tous eu une cagnotte Litchi.
Patrimoine.
Non.
Ils entre.
Il...
Elsa Triolet, ça m'embête.
Je crois que, aucun d'entre nous n'a ce.
Vous avez tous de la moustache.
Traitement-là. Non. Elsa Triolet, Notre-Dame, Napoléon Ier, Georges Brassens, ils vont être dans l'actualité.
Canonisé Napoléon Ier, oui, mais les autres, je vois pas.
Mais il y a un bâtiment dans le tas, c'est ça qui est compliqué.
Ah, ils vont avoir un timbre à leur effigie.
Exactement.
Ah, joli.
Je les timbres aujourd'hui.
On peut les faire tout seul.
Mais je suis ringard, hein, donc.
Ouais. Non, il y aura des timbres à effigie. Quelle serait la reconnaissance ultime, Audrey Fleurot, pour vous?
Le timbre.
Non mais être
bien,
Marianne.
Marianne, ouais.
Être Marianne.
Il y en a encore, j'ai l'impression que c'est un peu passé. Ils continuent à faire chaque année
une comédienne en Marianne. Je sais pas si c'est annoncé comme ça, mais.
Je suis restée sur Laetitia Casta, moi. Je suis restée sur Evelyne Thomas.
C'est vrai qu'il y avait une affaire.
Sauf Camélia Jordana, elle n'était pas à Marianne. Non, elle a fait une, ouais. Mais je l'aurais bien vue en Marianne, elle.
Et vous, Didier Bourdon, la reconnaissance
en Mario Bros. C'est pas mal.
Non, mais c'est de recevoir un Molière, c'est d'avoir une reconnaissance, un trophée.
J'ai déjà la reconnaissance dans la rue, c'est pas mal. Quoi. Donc voilà, c'est ça qui fait plaisir de voir même des jeunes qui adorent les inconnus, qui adorent.
Ça va revenir un jour.
Le paradis après.
On vous pose la question systématiquement, mais est-ce que ça fait partie des idées ou des envies?
Ah oui, bien sûr. Après,
tous les trois.
Ah ouais, ben bah, oui.
Est-ce que là, aux enfoirés,
c'est pas les trois.
Ça va se faire?
Ah non, on sait pas encore.
Non mais est-ce que aux enfoirés, vous avez refait toutes vos chansons? Oui, ça vous a remotivé un petit peu?
Oui, après c'est une question d'emploi du temps, voilà.
Non, ça c'est un faux alibi.
Non, c'est pas l'emploi du temps.
C'est faux.
Non.
Si on a envie de faire un truc, on le fait, c'est pas le côté...
On est à trois, déjà à deux, c'est difficile, toute une vie, alors à trois...
Si je vous parle de... Les quatre coins du cœur.
C'est Sagan.
Oui, exactement.
Oh, bravo.
Fond de tiroir.
Ouais, mais là, c'est dégueulasse.
Pourquoi?
Si elle est au courant.
Ça va trop vite.
C'est le fils, en fait, qui a retrouvé, c'est ça, au fond d'un tiroir, un manuscrit?
Ouais, c'est ça.
Il a réécrit des bouts.
Il a retravaillé.
Il cherchait un rail de coke. Il s'est dit, oh putain, c'est
des... Mais ça va pas.
Non, mais il avait vu ce texte et puis il est retombé dessus et il s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire quelque chose.
Alors, justement, de revisiter le texte de Joe, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre le texte initial, la pièce initiale, et ce que vous en faites tous les soirs, Audrey Fleurot?
Oui, parce qu'elle nous paraîtrait très datée, hein, quand même.
Donc, il faut mettre ça dans un verbe quotidien actuel?
En tout cas, la moderniser, les rapports hommes-femmes ont changé.
Oui, mais la situation reste la même.
La situation reste la même. Les rapports humains ont changé. le langage c'est par a exemple, changé.
Donc vous transformez la servante ou la femme de ou la gouvernante, je sais pas quel était son titre dans la pièce, devient la belle-mère.
Oui, mais c'est ça.
Oui, et puis Claude Jansac, dans mon souvenir, elle travaillait pas. Hein. C'est aussi un schéma féminin qui correspond plus tellement à la
réalité.
Alors
que là, vous jouez le rôle d'une actrice qui cherche du travail, en tout cas le rôle de sa vie.
Elle travaille, il n'y a aucun problème. Elle a même pas mal de succès.
Elle a la reconnaissance, elle veut le rôle de sa vie, le rôle dramatique.
C'est juste qu'elle veut jouer du dramatique, oui, et qu'elle n'a pas eu l'opportunité jusqu'à présent.
Il y a, chaque soir, vous essayez que ce soit différent du soir précédent, Lydie Bourdon ?
Non, c'est-à-dire en tant qu'acteur, faut essayer d'être comme pour le spectateur, se dire que c'est toujours la première fois. Oui. C'est vrai, c'est d'essayer de ce qui fait que même parfois, moi j'aime bien improviser, faire des petites choses, mais il y a des fois où je les coupe pour essayer de créer toujours une surprise, même en tant qu'acteur. Là.
Garder une sorte de fraîcheur.
De fraîcheur, c'est vraiment.
Ce qu'a arrêté de faire depuis très longtemps Daniel Moreau. Non, t'es pas frais, ça vient, t'es pas frais.
Ça suffit. À vous toutes qui m'écoutez depuis la maternité, je sais que vous êtes nombreuses, le son de ma voix ayant un effet apaisant sur votre baby blues naissant et un effet revigorant sur vos chairs molestées par l'arrivée brutale de celui ou celle qui va pourrir votre vie les 20 prochaines années. Bref, maternité où ce matin vous avez donné naissance à un petit ange dont vous êtes si fière malgré son visage chiffonné et cet air cyanosé qui lui donne des reflets de cirrhose, mais que romantiquement vous appelez touche automnale. Eh bien, vous êtes là à vous dire « Oh, mais quelle merveille, il est unique !» Eh ben non. Non, il n'est pas unique. Il est même d'un commun, ce bébé. Celui que vous venez de faire, c'est affligeant. Et oui, comme rappelait ce matin Dorothée Barba, qui signe la chronique capture d'écran tous les jours sur Inter vers 6h52, et avec qui j'ai 4 enfants, comme me le rappelait Dorothée aujourd'hui, c'est le jour de l'année où on compte le plus de naissances en France. Le pic de naissance.
Aujourd'hui ?
Plus 5% par rapport aux autres jours de l'année. Autant vous dire que c'est un gamin hors de pointe. Alors, ça nous dit tout. Ça nous dit quoi des gosses qui naissent le 23 septembre ? Eh bien, remontons 265 jours en arrière, ce qui équivaut à la durée moyenne de gestation. Eh bien, ce sont les mioches qui ont été conçues le soir du réveillon.
Oh non.
Eh ouais.
Oh
là, les enfants de l'alcool. Génial. Les enfants de l'alcool.
Sous-cuites.
Les Beat Kids. En même temps, je comprends. Il est tard, on est fatigué, mais pas épuisé. L'alcool rend joyeux. On est au milieu de plein de gens qui s'amusent. Alors, il y a plusieurs cas de figure. Il y a ceux qui, pendant la fête de réveillon, se rencontrent et c'est le coup de foudre.
Salut, c'est quoi ton nom ?
Je sais plus, je suis trop bourré.
Moi, c'est Katia, tu me plais bien.
Toi aussi.
J'adore ce titre ! Tu danses ?
Ouais, grave.
Et là, elle ne sait pas encore, hein. Mais à la fin du titre phare de Bézu, Katia est enceinte. Alors, il y a aussi les décisions de procréation mûrement réfléchies hein, chez les couples récents.
Oh mon amour, cette année, celle de notre mariage, ça fait de moi le plus heureux des hommes. J'aimerais... Et toi, tu aimerais quoi pour cette nouvelle année ?
Un enfant.
Mais quelle merveilleuse idée, mon amour, ne perdons pas de temps, faisons-le maintenant, filons dans la chambre, nous aimer toute la nuit.
Il y a les couples mariés depuis longtemps.
Ça y est.
Il est minuit, bonne année. Ouais, bonne année. T'aimerais quoi cette année ? Bah comme je m'emmerde dans cette maison, je me disais qu'avec un gamin en plus, ça m'occuperait. Si ça te fait plaisir, ok, mais 10 minutes maxi, on fait ça sur la table basse. Hein, je vais pas rater le début du grand zapping de l'année. Bref, beaucoup de cas de figure différents pour au final le grand miracle de l'amour avec l'arrivée de l'enfant. Alors, si on a noté que le réveillon de la Saint-Sylvestre était une date clé pour inviter à la procréation, on constate que les périodes de moindre naissance correspondent elles aussi à des événements particuliers. On constate en effet moins de naissances que d'habitude, 9 mois après... Une bonne canicule, c'est vrai. Et en même temps, c'est pas faux que quand dehors il fait 45 degrés, que t'es en sueur, que t'as du mal à respirer, c'est pas le moment le plus glamour de ta vie. Hein. Et ça peut créer des problèmes dans le couple quand un des deux n'est pas dérangé par la chaleur.
Oh, j'ai chaud.
Waouh. Oh, j'ai envie de toi. Oui, bah pas moi, je transpire comme une loutre. Quand je bouge un cil, je suis en nage. Non, laisse-moi tranquille.
Allez,
je suis en feu. Oui, j'ai pas la tête à ça. Hein. Hier, mémé est morte de soif dans le salon, j'ai pas encore fait mon deuil.
Promis, ce soir, je la sors du salon, je la mets dans le frigo en attendant les pompes funèbres.
Mais viens. Viens.
Sinon, à tous ceux qui auront un enfant pendant cette chronique et qui veulent le faire pendant la chronique, je veux bien être le parrain du petit. Rendez-vous donc à la maternité le 14 juin prochain, soit dans 265 jours exactement.
Merci.
Ça
Marina, qu'as-tu retenu de cette émission, de la présence d'Audrey Fleurot et Didier Bourdon?
Bah, que j'ai envie d'aller voir Joe.
Bah, très bien. Théâtre. Alors ça, toi, tu l'as vu, Leïla, qu'est-ce que tu as retenu?
Qu'il faut vraiment aller voir la pièce parce que vous êtes dans une énergie complètement dingue, tous les deux, tous les trois aussi, avec Dominique Pinon et je n'oublie pas le reste de la troupe.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est vrai. Et que c'est une première fois que je vous découvre comme ça aussi sur scène, Audrey Fleurot.
Ah, moi, j'ai jamais vu comme ça, ouais. Jamais.
Tanguy Massureau. J'ai pas eu l'occasion. Non, Tartuffe.
Le problème avec ce genre d'invité, c'est qu'on tombe évidemment facilement amoureux. Donc voilà, je voudrais le dire, je t'aime Didier Bourdon.
Ah, c'est là, c'est ma maman qui va être contente.
Tom Bila.
Quand on a un producteur un peu requin, effectivement, il ne faut pas mettre de bijoux à la main droite. Quand on
pas mettre les bagues à la main droite. C'est ça. Daniel Morin.
Alors, mauvaise pièce, bonne pièce, salle confortable. Tout ça, je m'en fous, j'irai quand même, il y aurait Fleurot. Peu importe.
Il n'y a que des amoureux autour de cette table. Qu'aimeriez-vous entendre dire, Audrey Fleurot, d'un spectateur qui sort du théâtre du gymnase après vous avoir applaudi?
Je me suis régalée. Moi, je trouve ça... on a tendance un peu à dévaloriser le...
Boulevard.
Non, le fait de juste... faire passer un bon moment aux gens. Moi, je trouve que c'est une gageure considérable et faire rire les gens, c'est vraiment dur. Bon, là, vous êtes super bien entouré, mais il y a un vrai art de faire rire les gens. Et moi, faire passer une bonne soirée aux gens, je trouve que c'est déjà génial. On sauve pas des vies, mais c'est déjà pas mal.
C'est une manière de sauver des vies. Didier Bourdon, qu'est-ce que vous aimeriez entendre comme commentaire après la pièce?
Je t'aime Didier, quoi.
Je sais pas, mais c'est très...
Oh, soyez pas gênés.
Non, mais moi j'aime pas trop voir les gens après le spectacle parce que. Mais non, ce qui est agréable, c'est voilà, comme l'autre fois samedi, j'ai osé quand même regarder un peu le public quand on a salué, puis on voit des gens qui vous font comme ça ou des trucs.
Des pouces en l'air.
Ça,
ouais,
c'est
des bravos.
Et voilà, je sais que ma femme dans la salle a entendu aussi un homme qui disait à sa fille, ah, ça t'a plu. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est un peu notre rôle à nous, c'est pendant 1h40 faire
apporter du plaisir.
Tout.
On a
et
eu des rires d'enfants, ce qui est assez chouette. J'ai l'impression que les gens viennent de plus en plus avec les
en
famille, ce qui ne m'arrivait pas non de ma génération. J'ai l'impression.
Ah ben non, Strindberg, si tu veux.
même les gens allaient au théâtre sans. J'ai l'impression que les gens amènent leurs enfants.
Parce qu'elles découvrent le théâtre populaire. C'est pour ça. Mais les inconnus, on a toujours eu aussi un peu.
Bien sûr, mais le découvre avec plaisir. En tout cas, on sent qu'elle va y prendre goût. Et nous aussi, on la découvre dans ce nouveau répertoire. Des excuses à présenter.
Oh oui, désolé déjà pour Leïla qui a découvert malheureusement que ces balades perverses, honteuses et bucoliques au parc des Buttes Chaumont ne servaient plus à rien. Les exhibitionnistes sont rentrés chez eux, Dixit, une spécialiste, Audrey Fleurot. En même temps, côté satire, tu es bien accompagné sur ta gauche. Hein. Le bon côté du porno sur Internet, comme il disait tout à l'heure. Désolé pour l'humour et les animaux marins qui ont été souillés, tambourinés par Nagui. Ah nom de Dieu, j'ai mal à ma banquise avec ça. Désolé enfin pour les Sex Pistols qui ont été honteusement squeezés par Audrey Fleurot au profit de Anne fucking Sylvestre. Putain André, on est sur Inter, l'antenne la plus punk, première radio de France. Voilà, on rétablit l'équipe.
Merci André Fleurot, merci Bourdon,
merci
Joe au théâtre du gymnase. Demain, Alice Paul et Guillaume Gallienne seront nos invités. On est très en retard, pardon Philippe Bertrand, bon carnet de campagne.
Merci désolé. Les amis. Merci.